1. La main de fer. Les tueurs sont d'autant plus redoutables qu'ils ne sont pas étrangers au lieu des tueries. D'autant plus retors que pour les partager, ils savent bien les habitudes de leurs adversaires. Ils sont familiers des lieux où les futures victimes travaillent, connaissent les rues qu'elles empruntent, les coins où elles dorment, ce qu'elles mangent, ce qu'elles aiment, et leur visage, bien sûr. Jérémie Foa. Tôt ou tard, tout lecteur devient nécromancien. Tôt ou tard, tout lecteur lit les mots d'un défunt, suit le fil de sa pensée, découvre ses souvenirs, partage ses émotions, ou au contraire, lutte contre ses erreurs ou son influence. Feuilleter un livre, c'est s'exposer à ouvrir la porte aux morts. C'est convoquer les esprits, écouter des voix sans timbre, vibrer avec les spectres. Du moins, s'agit-il encore d'une activité de vivant? Pour la plupart des lettrés, en tout cas. Mais qu'en est-il du chroniqueur? Qu'en est-il du poète? Qu'en est-il de l'auteur? S'ils rêvent à la postérité, ils sont nombreux à le faire quand ils conçoivent le texte comme un artifice pour se survivre. Alors l'insensé qui compose une œuvre bâtit son tombeau. Il se projette dans un temps où il ne sera plus qu'un peu de cendre. Il parle déjà en revenant. Sur ce vélin, je consigne donc mon discours de fantôme. Et l'hypothétique lecteur qui, dans un avenir imprécis, parcourra peut-être ces lignes, sera mon évocateur. Cette perspective me glace. Voilà sans doute pourquoi cela fait des jours que j'ai interrompu la rédaction de ce livre. En voulant lutter contre la nécromancie royale des dessicatoriens, qu'ai-je fait sinon construire mon propre rituel de hantise? Je n'y arrive plus. La tâche est trop lourde. Il faut porter la voix trop loin, alors que je n'ai déjà plus de souffle. Chaque ligne que je trace dans cette cursive contrariée, moi qui jadis maîtrisais une calligraphie si élégante et si claire, me fait penser au message gribouillé à la hâte avant d'être lancé à la mer. Ce manuscrit sera-t-il seulement découvert? Qui le lira? En maîtrisera-t-on le langage? À quoi bon continuer? Je pourrais profiter simplement du temps qui me reste en admirant le jardin sauvage par mes fenêtres ouvertes, en saluant les ombres qui s'y promènent parfois, en rêvant à mes bonheurs passés, car la longue existence qui me fut octroyée ne fut point dépourvue de périodes heureuses. Je ne parviens pourtant pas à m'engourdir dans cette somnolence teintée de nostalgie. J'ai l'âme trop troublée. Au moins, tant que j'écrivais la relation de la guerre des deux duchesses, je parvenais à concentrer mon esprit sur cette tâche, et j'oubliais, grâce aux recherches et à la concentration requise par l'ouvrage, le caractère précaire de ma situation. Hélas, depuis que la plume me tombe des mains, plus moyen de me voiler la face. Jour et nuit, j'ai le cœur oppressé par l'angoisse. Je ne parviens plus à oublier ce qu'il est advenu de moi et encore moins où j'ai échoué. Certes, bien qu'il soit un peu délabré, je suis à peu près en sécurité dans l'appartement que j'occupe. Mais je sens, autour de ces quatre murs, l'immense volume de la demeure où mon logis se trouve enclavé. J'ai l'impression que mes pas font résonner sous mon plancher de vastes voûtes en berceaux noirs de toiles d'araignée. Le vent qui siffle parfois dans le conduit de ma cheminée me parvient rempli d'échos de salles abandonnées. Un silence caverneux coule sous ma porte, gonflé par l'enfilade vacante des corridors, des galeries, des escaliers et des passages dérobés. De temps en temps, des craquements perturbent cette torpeur maussade, comme si toute la bâtisse grinçait ainsi qu'un navire. La vaste maison pèse parfois si fort sur mon plafond et mes cloisons que je me mets à étouffer. Si encore j'étais la dernière personne dans la demeure, je pourrais sans doute m'accommoder de cette solitude. Hélas, la quiétude qui s'appesantit sur cet édifice n'est qu'un faux semblant. Je partage les lieux avec d'autres reclus. On ne peut pas dire qu'ils sont de mauvaise compagnie, car je les évite soigneusement. En fait, pour parler sans fard, on ne peut pas dire qu'ils sont de mauvaise compagnie, parce qu'ils se révèlent pire que cela. Ce sont des êtres corrompus, certes mutilés et souffrants, mais je ne parviens pas à les plaindre tant ils sont néfastes. L'un de ces repoussants voisins occupe l'aile méridionale de la demeure. Un autre, au moins, est enfermé dans les caves. Je note qu'il y en a au moins un, parce que pour ma malédiction, je ne l'ai que trop souffert, mais j'ai la quasi-certitude qu'ils sont plusieurs à tourner comme des fauves en cage au fond des sous-sols. Pendant toutes les années que j'y ai passées dans les fers, j'ai senti que les ténèbres étaient grosses de présence tourmentée. Loin en dessous, tout en bas des escaliers, ils s'agitent. Je les entends parfois. Le plus dangereux, en tout cas, ne se résigne pas à son sort. Il traîne des objets lourds dont il cherche à faire des béliers. Il ébranle de temps à autre la porte. Il marmonne des borborygmes vengeurs dont la rumeur remonte par les conduits de cheminée. Non seulement j'ai fermé la cave à double tour, mais j'en ai également barré l'accès avec des meubles et plusieurs glyphes de garde. Malgré tout, je me demande combien de temps les huisseries vont résister. Quant à mon art, il se trouve si amoindri que mes charmes sont l'ombre des défenses que je tissais jadis. Depuis que je n'écris plus, je tends sans cesse l'oreille. Même le calme trompeur qui stagne la plupart du temps dans l'édifice entretient mon inquiétude. Je pressens constamment le bruit incongru qui m'avertira d'un danger. Cette tension de tous les instants finit par devenir plus éprouvante que le vacarme redouté. Assez régulièrement, j'essaie de me raisonner. Le plus sage serait sans doute d'inspecter l'entrée des sous-sols pour vérifier que la porte et la barricade n'ont pas bougé. Le simple fait de quitter mon logis me serre le ventre. Il suffit que je descende une dizaine de marches pour avoir des sueurs froides. Même quand tout est silencieux dans les galeries et les patios, j'ai l'impression que l'autre a l'oreille collée contre la porte de la cave et qu'il me guette comme une énorme araignée au fond de son terrier. Impossible d'aller plus bas. Je remonte précipitamment en me disant que je réessaierai plus tard. L'idée d'envoyer Mirabilis explorer les lieux à ma place m'a souvent traversé l'esprit. Mais le matou est rarement là quand on a besoin de lui. Et lorsqu'il se présente à l'improviste, j'en éprouve une telle joie que je préfère le garder avec moi plutôt que de l'envoyer en reconnaissance. De toute façon, il est peu probable qu'il se rendrait de son plein gré devant l'entrée de la cave. Son ouïe est beaucoup plus fine que la mienne et il entend parfaitement le remue-ménage inquiétant au sous-sol. Je doute qu'il ait envie de s'y frotter. Et puis j'ai trop peur de le perdre. Celui qui est en bas chercherait à le piéger. Il n'en ferait qu'une bouchée. Ou pire encore, il pourrait le retourner contre moi. Me voici donc dans une impasse. Au moins, tant que j'écrivais ce livre, j'avais l'esprit ailleurs. Et je ne connaissais l'inquiétude que par bouffées. Il faudrait que je me remette à l'ouvrage. Mais la vanité un peu funèbre qui motive ce travail me démoralise. Et l'anxiété est la plus aride des muses. Je ne sais plus par quel bout prendre cette chronique. J'ai l'impression d'avoir perdu la flamme et les mots. Il faudrait que je complète mes sources. Il y en a sans doute d'autres dans la librairie de la demeure. Mais pour y retourner, il faut que je sorte, que j'emprunte des cages d'escalier, et que je longe des balustrades qui dominent des cours obscures. Mirabilis est naturellement un témoin précieux, mais ses souvenirs restent ceux d'un chat. Avec une prudence qui est toute à son honneur, il s'est généralement esquivé dès que les armes étaient tirées. S'il a partagé avec moi ses réminiscences sur les camps de l'Indinas et son expédition nocturne en compagnie de la Lysandière, en revanche, il n'a rien pu m'apprendre sur les combats du tournoi de l'Immortel. Le plus piquant de la situation, si l'on me passe ce trait un peu faible, c'est que l'un de mes déplorables voisins se trouvait également à l'Indinas au moment des événements. Il s'agit de l'occupant de l'aile tchoudalienne. Il ne fut pas seulement témoin du pas d'armes, mais y prit une part active, plus qu'active en vérité, bien qu'il ne figure pas parmi les champions dont le nom est resté associé à ce tournoi. Il y mena une action qui, quoique dépourvue de conséquences immédiates, eut ensuite des répercussions catastrophiques pour le duché. Si je voulais collecter un témoignage de première main, je n'aurais qu'à changer de corps de bâtiment et de palier, et je me trouverais à pied d'œuvre. J'ai l'écriture tremblée à cette seule perspective. Quelle idée insensée! Le voisin de l'aile méridionale est l'un des criminels les plus effrayants que j'ai eu le malheur de croiser. Il a trempé ses mains dans le sang des êtres qui me furent les plus chers. Sa présence dans ces murs me terrifie à peine moins que celle du monstre au bas des escaliers. Comment puis-je envisager seulement un instant de l'approcher? C'est de la folie. Pis que de la folie, peut-être une impulsion suicidaire. Parce que je ne supporte plus d'attendre indéfiniment l'inévitable. Non, non, raisonnons-nous. Je n'en suis pas encore là. Courir de tels risques, à quelle fin? Afin d'écrire un livre qui me distrait de l'angoisse? Pareille inconséquence est presque risible, grotesque. Reprenons-nous. Hors de question. Finalement, j'ai pris le temps de la réflexion. Tout bien pesé, et quoique cette initiative offusque mon sentiment et ma morale, j'ai admis que l'idée de consulter l'occupant de l'aile tchoudalienne était moins folle qu'il y paraissait. Pour commencer, j'ai davantage de griefs contre lui qu'il n'en a contre moi. Dans la mesure où j'aurais plus de raisons de m'en prendre à lui que l'inverse, cela peut modérer son hostilité à mon égard, même si cela n'atténue en rien sa dangerosité. En outre, il est aussi menacé que moi par l'occupant du sous-sol. Après tout, ils ont failli s'entretuer tous les deux, et j'ai dû me liguer provisoirement avec le voisin tchoudalien pour voler les clés du tourmenteur et parvenir à l'enfermer à la cave. Je peux me réclamer de cette complicité de circonstances pour ouvrir le dialogue. Enfin, je dispose d'un argument de poids dans une négociation. Je suis la seule personne à détenir toutes les clés de cette demeure. C'était du moins ce que je voulais croire. Ma conviction sur ce point est de plus en plus fragile. Je me suis dit que si je parvenais à nouer le contact, je pourrais peut-être échanger l'accès à certaines parties du bâtiment contre une surveillance du sous-sol. Certes, pour arriver à un tel accord, il me fallait approcher un personnage détestable. Mais cela me permettait de déléguer la garde du plus redoutable, tout en collectant de nouveaux renseignements sur le tournoi de l'Immortel. J'y gagnais sur les deux tableaux. Je ne me suis pas fait beaucoup d'illusions sur mes chances de voir aboutir cette démarche, mais je me suis dit que mieux valait prendre un risque calculé plutôt que d'attendre craintivement un coup du sort. Après tout, même si je ne parvenais à rien avec l'occupant de l'aile méridionale, peut-être le regain d'assurance donné par cette tentative me donnerait-il, par effet d'entraînement, le courage de descendre vérifier la porte de la cave par mes propres moyens. Alors, après avoir beaucoup atermoyé, j'ai fini par me rendre à mes propres raisons. De toute façon, personne ne me forçait à aller jusqu'au bout. Je pouvais au moins pousser une reconnaissance jusqu'à l'aile méridionale et aviser sur place. J'ai hésité sur la nature des précautions à prendre. Était-il prudent de me munir d'une arme? Mais quelle arme? Un couteau de cuisine? Un tisonnier? Non seulement cela se serait révélé ridicule, mais également désobligeant et, à terme, dangereux. Le Tchoudalien a beau être devenu infirme, je ne doute pas qu'il aurait le dessus s'il souhaitait s'en prendre à moi physiquement. Deviner une arme dissimulée sous mon manteau aurait excité à la fois ses sarcasmes et sa défiance. Cela lui aurait aussi confirmé que je le redoute et l'aurait placé en position de force dans une négociation. Pas d'armes, en ai-je donc conclu. Mais quand même quelques charmes de protection, au cas où les choses tourneraient mal. Dissimulé dans des bijoux assez communs, j'ai accroché des phylactères à mon cou et à mon poignet gauche. J'ai également glissé un miroir à main dans mon aumônière, au cas où j'aurais eu besoin d'évoquer des illusions. Il me fallut prendre sur moi, malgré tout, pour sortir de mon logis. Après avoir inspecté la pénombre du couloir, j'ai risqué le nez dehors et j'ai refermé ma porte à double tour. J'avais enveloppé mon trousseau de clés dans un foulard pour en étouffer le cliquetis. C'était la fin de matinée, un moment que j'avais choisi pour mon entreprise parce que l'occupant du sous-sol est généralement plus calme autour de midi. Malheureusement, même en milieu de journée, le soleil ne porte pas jusqu'au fond des patios étroits comme des puits. Seules certaines galeries sont éclairées par un jour oblique, les autres somnolant dans un crépuscule maussade. Bien que disposant toujours d'un briquet et d'un silex dans mon aumônière, je n'ai pas allumé de bougie. Dans les recoins sombres de la demeure, je craignais que la flamme ne me rendît trop repérable. J'ai remonté à pas de loup un corridor assez obscur, d'architecture récinienne. Les moucharabiais ne laissaient filtrer que quelques taches de jour sur la mosaïque aux éliges fendus et poussiéreux. Les stuccatures sculptées du plafond se voilaient dans une bouderie de caveaux. Il m'a fallu ouvrir et fermer deux grilles avant d'accéder à la librairie. L'un des portails a grincé horriblement. Le souffle court, l'oreille aux aguets, j'ai redouté d'avoir attiré l'attention. Pourtant, le calme s'est aussitôt refermé sur le dédale de cours et de passages. Nul autre tapage que le mien. Mais cela n'avait rien de rassurant. Après le raffut métallique, le silence qui est retombé sur toute la demeure a pesé beaucoup plus lourd. J'ai traversé rapidement le grand désordre de la librairie. Derrière des rayonnages, une porte dérobée donne accès à l'entresol du patio méridional. À première vue, cette nouvelle cour paraît moins étouffante que les corridors des ailes réciniennes. Une simple balustrade longe les galeries au-dessus du cortil, ce qui délivre un peu plus de lumière. L'architecture possède d'ailleurs les beaux volumes des Palazzi Tchoudaliens. Les étages sont hauts, les loggias aérées, les escaliers larges et droits. Malheureusement, cette partie de la demeure sombre dans une poignante décrépitude. Certains pilastres des mains courantes sont brisés. Les degrés des escaliers sont usés et parfois affaissés. Les enduits s'émiettent et donnent à toute la construction une apparence lépreuse. Aux dernières nouvelles, l'occupant de cette aile avait élu domicile presque sous les toits, dans un appartement du cinquième étage. Peut-être parce que, tout comme moi, il se méfie des sous-sols. J'ai donc emprunté les escaliers pour monter là-haut. Les marches, maculées d'éclaboussures, exhalaient des remugles d'urine et de vomissures, et j'ai dû prendre sur moi pour les gravir jusqu'au dernier perron. Des bris de verre se trouvaient éparpillés sur ce palier, que j'ai veillé à ne pas écraser. Ces malpropretés me soulevaient le cœur et ne faisaient qu'accroître mes appréhensions. Une fois devant le seuil du misérable, j'ai failli renoncer. Mais cela aurait été idiot, après m'être fait violence pour venir jusque-là. Ayant saisi le heurtoir en forme de main crispée sur une bourse, j'ai frappé. Le bruit s'est répercuté désagréablement fort dans tout le cortil. Mais le plus troublant fut de voir la porte s'entrebâiller au premier choc. Elle n'était pas fermée. Par l'embrasure, j'ai aperçu les carreaux fendillés de majolique et une enfilade de salles sombres traversées par de rares raies de soleil. Tout cela empestait le traquenard. J'ai tourné les talons et dévalé une dizaine de marches. Je n'ai toutefois pas fui jusqu'à l'étage du dessous. Le souffle court, j'ai essayé de retrouver la maîtrise de moi-même. Ce ne fut pas un grand succès, mais au moins j'ai pris le temps de la réflexion. Le tchoudalien est un être fourbe et perfide. À m'enfuir de la sorte, je courais peut-être tout droit me jeter dans un coupe-gorge. En me penchant au-dessus de la main courante, j'ai inspecté les escaliers et les galeries, craignant de découvrir une silhouette dissimulée derrière un pilier ou dans une embrasure. Tout paraissait désert. Mais dans un sens, cette solitude était encore plus alarmante. La plupart du temps, on ne découvre le sicaire que quand il est déjà trop tard. Où qu'il fût embusqué, dedans ou dehors, le tchoudalien m'avait entendu frapper. Le fuir à présent passerait pour un aveu de faiblesse. Et ma dérobade piquerait pernicieusement sa curiosité. Je courais désormais le risque de l'attirer dans mon corps de bâtiment. Certes, il ne possédait pas les clés des deux grilles qui fermaient le patio récinien, mais cela ne représentait pas un obstacle insurmontable pour une canaille de son acabit. Même s'il ne lui restait qu'une seule main, peut-être était-il encore capable de crocheter ses serrures, sans parler de la mienne. Je n'avais plus le choix. Il fallait terminer ce que j'avais commencé, sans quoi j'avais la quasi-assurance que ce serait lui qui viendrait à moi. Avec un frisson, je me suis imaginé franchir le seuil de mon logis et découvrir le scélérat nonchalamment installé dans mon fauteuil. J'ai respiré un bon coup, préparé mon miroir à main et j'ai fait demi-tour. J'ai frappé de rechef, du bout des doigts plutôt que du heurtoir pour éviter de faire résonner tout le cortil. Ayant également lancé quelques appels sans plus de résultats, mais sans trop élever la voix, il est vrai, j'ai fini par prévenir que je prenais la liberté d'entrer. La porte a grincé de façon sinistre quand je l'ai repoussée. J'ai passé prudemment la tête à l'intérieur pour essayer d'accoutumer mes yeux à la pénombre. La plupart des volets intérieurs des grandes fenêtres à meneaux étaient fermés. Il n'y en avait que quelques-uns qui, mal repliés, laissaient filtrer une lumière poudreuse de poussière. Il régnait un tel désordre dans cette atmosphère confinée que j'avais davantage l'impression de me tenir sur le seuil d'un grenier que d'un appartement noble. S'y appesantissait un silence de mort, comme si l'endroit était abandonné. J'ai risqué quelques pas à l'intérieur. Sitôt le seuil franchi, quelque chose a crissé sous ma semelle. J'ai relevé le pied, craignant de me blesser sur des tessons, et j'ai alors fait une trouvaille répugnante. Je venais de marcher sur des dents humaines, éparpillées dans l'entrée. Cela m'a glacé l'échine, mais j'ai réussi à dominer mes émotions. Pour un esprit averti, cette découverte n'avait rien de surprenant. Elle confirmait que j'étais au bon endroit pour rencontrer celui que je cherchais. En posant bien ma voix, afin que la peur ne la fît point chevrotter, j'ai à nouveau annoncé ma présence et avancé avec précaution. J'ai traversé une à une, avec une prudente circonspection, toutes les pièces du logis. Je tendais le dos en franchissant chaque embrasure. Et pourtant, rien ne troublait le calme sépulcral. Mes yeux s'accoutumant aux ombres du contre-jour, j'ai mieux distingué le grand bric-à-brac qui encombrait les lieux. Des coffres ouverts béaient sur des butins de receleurs. Des chevalets de peinture se drapaient de toiles d'araignée. Des baudriers de spadassins avec dagues et épées de duel étaient accrochés aux patères. Sur des tables éraflées au couteau, traînaient de la monnaie, des cartes à jouer et des flacons renversés. Je me méfiais particulièrement des draperies qui habillaient certains murs, mais elles ne dissimulaient personne. sinon une trace de main sanglante qui déparait d'une fresque écaillée. D'autres taches brunâtres avaient été mal recouvertes par un tapis. En m'arrêtant au milieu de la dernière pièce, une chambre assez louche au pot d'aisance ébréché et au lit en bataille, j'ai éprouvé un mélange de soulagement et de déception. L'hôte de ce taudis était absent. Ce qui, dans un sens, n'était pas très rassurant, car où se trouvait-il? Sur un lutrin bancal, j'ai aperçu une liasse de papier et une plume de guingois dans son encrier. Je me suis demandé s'il fallait laisser un message pour signaler ma visite, et j'ai très vite décidé de n'en rien faire. Je n'avais plus qu'à quitter les lieux et me réfugier au plus tôt dans mon repère. Lorsque j'ai fait demi-tour, j'ai éprouvé un grand choc. Il y avait quelqu'un d'autre dans la pièce. Le Tchoudalien était là. En fait, il était probablement là depuis le début, même s'il ne m'avait pas répondu. Il se tenait assis à même le sol, dos au mur, juste à côté du chambranle de la porte. J'avais dû le frôler en entrant, et je n'avais même pas soupçonné sa présence. Je n'ai pu réfréner le frisson que m'a inspiré cette découverte. Muet, immobile, il me fixait par-dessous. Je lui ai trouvé un air encore plus hargneux et flétri que dans mon souvenir. Le souffle coupé, j'ai perdu mes moyens et n'ai su que lui dire. Il a senti ma peur, et sans se donner la peine de se relever, m'a décoché un sourire malveillant. « En voilà une surprise », a-t-il raillé. « Bonjour, Don Benvenuto », ai-je platement répondu. J'ai éprouvé une pointe de pitié assez incongrue, et surtout un élan de dégoût, devant tant de décrépitude. Il avait énormément vieilli. Il ne restait du spadassin nerveux de jadis qu'un spectre ridé et étique. La calvitie commençait à peler sa chevelure gris sale. Son pourpoint pendait sur ses épaules amaigries comme une loque accrochée à deux clous. Les chausses tire-bouchonnaient sur des mollets aussi grêles que des pattes d'échassier. Il avait posé les mains sur ses genoux aigus, la gauche aux ongles noirs de crasse, donnait encore une impression de force qui jurait avec cette silhouette rachitique. La droite ressemblait à un gros crustacé piqueté de rouille, un gantelet au mécanisme raffiné, mais à l'entretien négligé qui était venu se substituer aux membres perdus. « Ça fait un sacré bail », a-t-il constaté sur le ton de la conversation. « Eh oui, le temps file. » Ah ça ne nous rajeunit pas. À partir d'un certain âge, il est inutile de compter. J'ai connu des elfes, des drôles de numéros qui disaient la même chose. J'ai de semblables souvenirs. Il se peut que nous ayons fréquenté les mêmes artistes. C'est possible, oui. Vous et moi, on a plus en commun que ce qu'on veut bien croire. Et nous voilà en train de papoter tranquillement, comme deux vieilles commères. Son museau tout froncé de malice laissait clairement entendre qu'il n'en croyait pas un mot. De mon côté, j'essayais de dissimuler la répulsion qu'il m'inspirait. Son élocution chuintait un peu. Quand il s'élargissait, son rictus découvrait une gencive largement édentée. Mais... « Faites comme chez vous », a-t-il ajouté avec une feinte cordialité. Il a vaguement agité la griffe métallique qui lui tenait lieu de main. « Prenez donc un siège. Si vous farfouillez un peu, vous trouverez un fond de pivois. Je dois avoir des verres quelque part. Jetez-vous-en un ou deux à ma santé. Et puis, vous me direz ce qui me vaut l'honneur. » J'ai dû lutter contre la tentation de décliner cette hospitalité plus que fruste. Mais les choses se présentaient moins mal que ce que j'avais redouté. Encore que je craignisse plus que jamais qu'il jouât au chat et à la souris. Et il aurait été maladroit de ne point se prêter à cette parodie de bonne manière. Je n'ai toutefois pas poussé la simagrée jusqu'à goûter son vin. Tout au plus, ai-je redressé deux chaises renversées. Ne voulez-vous pas vous asseoir ? Ai-je poliment demandé. Oh, mais je suis déjà assis, a-t-il répliqué sans bouger de son coin. Je suis installé et bien installé. D'une légère inclination de la tempe, il a désigné le seuil à côté duquel il était vautré. Je surveille la porte, a-t-il chuchoté sur le ton de la confidence. Des fois qu'il y ait des cafards. L'insinuation m'a coupé les jambes, et j'ai pris place sur mon siège plus vite que ne le dictait ma dignité. Le malandrin a eu l'air ravi de son effet. Alors, a-t-il enchaîné d'un air patelin, qu'est-ce qui me vaut le plaisir ? J'ai eu quelques difficultés à rassembler mes idées. Des pensées parasites me perturbaient, où se disputaient le mépris et de brûlants reflux de haine. Et puis, malgré sa comédie bonasse, le gredin continuait à m'effrayer. Certes, il paraissait encore plus affaibli que ce que j'avais pressenti. Certes, il semblait désarmé, hors son horrible prothèse. Certes, il ne donnait aucun signe de vouloir bouger de son coin de chambranle, ce qui de toute manière poserait problème quand je souhaiterais quitter cet antre. Rien de tout cela ne suffisait à me rassurer. Il n'avait pas eu l'air surpris de ma visite, et il jouissait visiblement de mon trouble. Fondamentalement, l'alliance de circonstances qui nous avait permis de neutraliser notre tourmenteur n'avait rien changé chez lui. Plus que jamais, il restait ce criminel roué et pervers qui m'avait fait tant de mal par le passé. Cependant, le reclus de la cave représentait un péril infiniment plus grave. La fatalité voulait que, d'une façon ou d'une autre, j'allasse contre mes principes et mes sentiments. « Je vous ai négligé trop longtemps, Don Benvenuto, » ai-je fini par dire. « Vous savez mes raisons, et je ne vous présente nulle excuse, mais je conviens cependant que mon comportement a été... inadéquat. Après tout, malgré que nous en ayons, vous et moi, nous voici contraints de faire cause commune. C'est pourquoi j'ai révisé ma position et me voici aujourd'hui. » Il a hoché doucement la tête en me coulant un sourire glacial. « Comme c'est bien dit, » a-t-il grimacé. « Vous voulez quoi ? » ?»« Un arrangement. » Reconduire notre collaboration accidentelle. Nous offrir une garantie mutuelle contre l'ancien propriétaire. L'ancien propriétaire, a ricané le Forban. Vous voulez parler de cette grosse saloperie de par réflexe j'ai élevé le ton et la main. Ne le nommez pas, ai-je presque crié. Surtout dans ces murs, vous pourriez la tirer. Le vieux sicaire n'a pas eu l'air d'apprécier d'être coupé. Mais il s'est conformé à mon injonction. Au cours de son existence, il ne s'était que trop brûlé à la magie et savait qu'en ce domaine mes avis étaient fondés. Le nuisible en question, il est au frais, non ? A-t-il repris en haussant les épaules. En effet, mais cet édifice et sa demeure, rien ne nous assure que les défenses établies par mes soins seront suffisantes pour le contenir indéfiniment. D'accord. Donc, vous voulez que je retourne m'occuper de son cas ? Je l'ai détrompé de la tête. « Vous me jugez toujours aussi mal ? » ai-je observé. « Il n'est pas dans mes habitudes de recourir aux services dont vous faites commerce. Et de toute manière, si vous vous retrouviez face à lui, je crains que le rapport de force vous serait défavorable. » Mon vilain vis-à-vis s'est fendu d'une grimace pleine d'autodérision. « Ouais, » a-t-il grommelé. « J'ai un peu perdu la main. » Je suis pas sûr que j'aurais accepté le contrat. Mais il y a d'autres moyens. On pourrait l'enfumer dans son trou, ce gros rat. Il était plus prudent de ne pas lui en faire la remarque, mais je reconnaissais bien là les penchants pyromanes du gredin. Ce serait courir le risque d'incendier cette maison. Et alors, est-ce que ce serait une grosse perte? Il se pourrait hélas que nous brûlions avec les murs. Ça ne m'avait pas échappé. Et alors, est-ce que ce serait une grosse perte?
Ah, je vois, je vous ai connu plus combatif, Don Benvenuto.
Votre compassion, vous pouvez vous la carrer où je pense.
Je ne suis pas encore la loque que vous croyez.
C'est juste que j'en ai ma claque de cette turne. Et puis ce ne serait pas la première fois que je frotterais la Camarde juste pour réussir un gros coup.
Évidemment, il avait toujours été un risque tout. Même estropié et affaibli, il continuait à raisonner comme le spadassin prêt à jouer son existence à pile ou face. Il était même probable que sa déchéance encourageait son imprudence. Sans doute se disait-il qu'il avait tout vu, tout fait, et qu'il n'avait désormais plus rien à perdre. Voilà qui ne faisait pas spécialement mon affaire.
Dois-je vous rappeler que le problème est plus épineux, Don Benvenuto? En fait, nul ne sait très bien ce qui pourrait émerger des cendres de cette maison. La solution radicale que vous envisagez pourrait être pire que le mal. Vous savez très bien à quoi je fais allusion. Cela a failli détruire les clans d'Ouromagne, la principauté du Sacre, le duché de Bromel et la république de Tchoudalia.
Ouais, ouais, j'en ai assez soupé de cette grive-là.
Mais dans ce cas, pourquoi pas partir tout simplement en laissant le rabouin sécher au fond de sa rabouillère?
Et où se réfugier? Vous reste-t-il quelques gîtes à l'extérieur?
Suffit de faire comme ici. Déménager et taper l'incruste dans une autre baraque.
Je n'ai pas dissimulé ma réprobation. Il m'est impossible de souscrire à une proposition aussi malhonnête. De toute façon, elle ne résoudrait rien. Si nous désertons cette enceinte, il ne faudra pas une journée à notre ennemi commun pour qu'il sorte de sa prison et reprenne possession des lieux. Ensuite, vous savez très bien ce qui se passera. Il nous traquera sans relâche en se faisant seconder d'auxiliaires physiques et immatériels. Et quand il nous aura rattrapés, je doute qu'il se contente de nous faire disparaître.
Le Forban a d'abord levé les yeux au ciel en m'entendant formuler mes scrupules. La suite de mon argument lui a visiblement paru plus recevable, mais n'a pas semblé le réjouir. Son expression s'est assombrie, et il m'a lancé un regard noir sous ses sourcils mités.
« À quoi ça rime, votre proposition de mariage, si on ne peut pas lui faire sa fête à l'indélicat? Qu'est-ce que vous branlez dans ma piaule ?»«
Je vous l'ai dit. » Nous pouvons nous prodiguer une assistance mutuelle pour renforcer notre sécurité. Vous vous y connaissez en protection rapprochée et moi en ésotérisme. Nos talents sont complémentaires. En les associant, nous resserrons la surveillance de celui qui nous préoccupe.
C'est vous qui l'avez empaqueté, pas moi. Et c'est vous qui avez les clés. C'est votre suif, pas le mien.
Il n'avait pas tout à fait tort. Et j'aurais d'ailleurs préféré qu'il en restât ainsi. Cependant, la charge était devenue trop lourde pour ma volonté. Il eût été toutefois dangereux de le reconnaître, car c'eût été avouer une faiblesse dont le Forban ne se serait pas privé d'abuser. J'ai donc dû présenter la situation sous un jour un peu différent.
Votre raisonnement est aussi le sien, Don Benvenuto. C'est contre moi qu'il concentre ses maléfices, cherchant à briser mon esprit pour être ensuite en mesure de recouvrer sa liberté. Il me faut donc à la fois conjurer sa jetatura et veiller à ce qu'il ne s'évade pas du sous-sol. Pour employer une langue aussi fleurie que la vôtre, je me trouve à la fois au four et au moulin. Or, je crains que cette dispersion ne nuise à mon efficacité. Et si par malheur je venais à défaillir, nous en paierions le prix, vous et moi. Voilà ce qui motive ma démarche auprès de vous.
Le gredin a frotté son menton mal rasé de la main qui lui restait. Quoiqu'il ne soit point initié aux arts occultes et qu'il aime à se donner des airs rustres, il a nagé si longtemps dans les eaux troubles de la politique qu'il possède un jugement aiguisé. J'ai eu la certitude, très inconfortable, qu'il pesait chacun de mes mots, persuadé que je lui dissimulais quelque chose et qu'il cherchait à deviner mes véritables desseins.
« Alors quoi ? » a-t-il grommelé. « Vous cherchez un second couteau ?»
Mais cette question n'était qu'une relance de pure forme, une façon d'occuper la conversation. Je voyais bien qu'il continuait à réfléchir.
Si vous vous chargiez de quelques rondes pour vérifier que la porte de la cave reste bien barricadée, cela me permettrait de me concentrer sur le verrouillage conjuratoire. » Le méchant drôle a gloussé. « En somme, vous voulez me saper en maton. »
« J'aurais plutôt parlé de sentinelle. Je ne vous demande aucune interaction avec le captif. En fait, je vous le déconseille formellement. Ne parlez pas avec lui. Évitez de signaler votre présence et même d'approcher de la porte, sauf en cas d'extrême nécessité. Il pourrait essayer de vous soumettre, même à travers l'obstacle. »
« Pas la peine de me faire la leçon, je connais l'arcan. Je sais ce que je risque rien qu'en m'approchant de son trou. Et justement, qu'est-ce que j'y gagne dans l'affaire ?»«
Je vous l'ai dit, plus de sûreté. »
Une grimace vindicative a froncé son museau. « C'est ça, payez-vous ma tête. J'ai pas l'habitude qu'on me dérange pour des nèfles. Alors allongez la galette, sinon vous n'allez pas aimer le second service. »
« À combien estimez-vous votre prix ?»«
Cher et même prohibitif. J'ai des références à remplir une nécropole. »«
Si vous voulez de l'or, je peux vous en trouver. Beaucoup. » »«
Voilà un langage qui parlait jadis à mon cœur, tant que j'en avais encore un. Mais j'ai changé. Et de toute manière, ici, vos florins ont autant de valeur qu'une monnaie de singe. Ce que je veux... c'est une contrepartie qui vaut vraiment quelque chose. »
J'ai du mal à vous suivre. Pourriez-vous être plus précis?
Vos clés, par exemple. Pour être libre de mes mouvements dans toute la boutique.
Oh, je vois. Je suis au regret de vous dire que l'idée manque d'à propos. Ces clés sont surtout symboliques. Si vous me suivez,
je vous suis parfaitement. J'adore les symboles. En plus, si c'est symbolique, ça ne vous coûtera pas grand-chose de m'envoyer le trousseau.
Je crains qu'il n'y ait malentendu. Je ne vous parle point de symboles analogiques, mais de symboles hermétiques et opératoires. Ces clés sont des sceaux magiques, si vous préférez. Vous les confier serait comme vous offrir un livre dans une langue que vous ne comprenez pas. Vous auriez beau en disposer, cela ne vous servirait à rien.
Le gredin me scrutait avec une acuité désagréable. Il n'était pas prêt à s'en laisser compter. « Vous n'avez qu'à m'apprendre les mots de passe qui vont avec. » »«
C'est beaucoup plus compliqué que la récitation de quelques formules. Il faut avoir le talent, la méthode et le fluide. »«
Vous me prenez vraiment pour un ourdé ?» a-t-il grondé. « Je suis sûr qu'avec une paire de crochets, je peux rentrer n'importe où dans cette tôle. Je pourrais même crocheter de ma main de fer. Tout n'est qu'illusion ici. »
Il a frappé le mur de sa prothèse, laissant une large trace de griffe sur la fresque fanée. Le coup a résonné dans l'enfilade des pièces désertes. « Il serait plus juste de dire que tout n'est qu'apparence. »
« Ai-je objecté. Qu'est-ce que ça change ?»«
L'endroit que nous occupons est bien réel. Il est juste repeint, en quelque sorte. Nous le percevons sous une forme plus intelligible et plus supportable que son aspect véritable. Mais tout y possède une existence authentique. Les voies, les paliers... les espaces ouverts ou clos, ainsi que les accès. Les clés que vous me réclamez sont de la même nature. Il ne suffirait pas de savoir percer les apparences pour les utiliser. Il faudrait aussi comprendre l'organisation réelle du domaine où nous avons échoué. Cela aurait de quoi vous faire perdre l'esprit. Moi-même, je lutte sans cesse pour ne pas m'y égarer. Et vous savez tout comme moi que le véritable maître des lieux guette le premier faux pas de notre part.
Si je vous comprends bien, vous me demandez de surveiller quelque chose que je n'entrave pas. Vous voulez faire une vigie d'un aveugle.
Les aveugles ont souvent une ouïe excellente.
Ouais. Moi, je crois surtout que vous cherchez à m'enfumer, parce que vous n'avez pas envie d'y mettre le prix et encore moins que j'approche de vos quartiers.
Il a frotté les pieds au sol comme s'il s'apprêtait à se relever. Il était évident qu'il cherchait à entretenir mon malaise, et cela ne fonctionnait que trop bien. Il était temps de lui concéder quelque chose. En échange de vos services, je peux ouvrir toutes les pièces des étages de l'aile méridionale, afin qu'elles vous soient tout le temps accessibles.
Seulement l'aile méridionale? Et pourquoi pas le reste?
C'est trop dangereux.
Je ne vous surprendrai pas en admettant que je tiens à me garder de vous. Mais c'est surtout de celui d'en bas dont je me défie. S'il parvenait à sortir du sous-sol et qu'il trouvait tout ouvert, nous n'aurions aucune chance de lui échapper. Vous voulez que je le surveille pour vous ? Alors donnez-moi accès à la moitié de la bicoque et calfeutrez-vous dans l'autre partie si vous avez les foies. 50-50. C'est honnête, non ?
En m'armant de courage, j'ai refusé. Je ne puis accepter pareille proposition. Je vais tâcher de vous expliquer mes raisons. Vous ne maîtrisez pas la façon dont les accès de cette demeure sont scellés. Or, cette maison est une forteresse. Si jamais notre captif s'échappe et gagne vos quartiers, vous serez incapable de lui interdire vos seuils. Ce sont tous vos appartements qui tomberont en sa possession. Avec votre expérience, vous savez mieux que moi qu'une place à moitié prise est généralement une place condamnée. Voilà pourquoi je ne peux vous confier une surface aussi étendue. Devant son expression hostile, j'ai ajouté en toute hâte « Toutefois, en guise de compensation, je puis vous offrir autre chose. »
« Ah ouais, je vous préviens, si j'ai l'impression que vous me jetez un os à ronger, je vais vraiment montrer l'écrou. »
Malgré sa bouche à moitié édentée, il avait l'air terriblement convaincant. J'ai senti la sueur perler à mes tempes. J'espérais qu'il n'éventerait pas la finesse que dissimulait effectivement mon offre. J'ai la certitude que ma proposition va vous intéresser. Si vous m'en laissez le loisir, je peux concocter un charme très élaboré, qui vous donnera le pouvoir de commander à votre prothèse de fer par la pensée comme s'il s'agissait de votre main naturelle. Il m'a lancé un regard sceptique, sourcils froncés, avec l'expression du vieux mercantil à qui on ne la fait pas. Mais l'intensité de sa méfiance trahissait en fait son intérêt. N'importe quel manchot aurait été tenté, et lui plus que tout autre, qui avait passé pour le spadassin le plus redoutable de la République.
« C'est quoi l'embrouille ? » a-t-il grogné.
« Vous m'avez dit que vous réclamiez un prix à la hauteur de vos références. Croyez-moi, ce sortilège est rarissime, et vous permettra de récupérer l'essentiel de votre dextérité. »
« Vous croyez que c'est la première fois qu'on cherche à m'emboucaner avec un talisman pourri ?»
Il s'agit d'une évocation, non d'un charme matériel. Et je vous donnerai la possibilité de l'annuler comme bon vous semblera.
J'ai inspecté de loin sa main mécanique. Quoiqu'elle fût mal entretenue, il s'agissait vraiment d'un chef-d'œuvre d'artisanat, probablement fruit de la collaboration entre un maître armurier et un maître serrurier. Son allure générale de gantelet faisait penser au style de l'atelier Acherini. La finesse des articulations métalliques aurait pu être la marque du ferronnier Cavatore. Cette horreur sophistiquée avait dû coûter une fortune. Son propriétaire s'est avisé que je la détaillais et cela n'a pas eu l'air de lui plaire. « Vous voulez me faire avaler que vous pouvez animer cette pince » a-t-il grogné.
« Pas moi, vous. Je me contenterai d'enchanter l'objet pour qu'il se conforme à vos volontés. »
« Et qu'est-ce qui me dit que... « La harpe ne vous obéira pas autant qu'à moi. »
Chercher à vous duper me paraît inconsidéré. Par le passé, vous avez déjà montré que vous étiez capable de briser les envoûtements. Voilà un risque auquel je préfère éviter de m'exposer.
Le gredin continuait à me fixer d'un œil perçant. Il se doutait qu'il y avait anguille sous roche et essayait de deviner où se nichait le piège. Mais j'avais su toucher un point faible en lui faisant miroiter ce trésor inattendu. Un espoir qu'il avait cru perdu. En outre, c'était un joueur qui avait l'habitude de courir sa chance. « Je veux voir », a-t-il finalement lâché.
« Je m'en réjouis pour notre arrangement.
Avant de vous réjouir, je veux voir. Si votre truc est régulier, je marche. Si c'est un char, je vous montrerai que je sais quand même m'en servir de cette cuillère. »
Il était appâté, en dépit de son tempérament suspicieux.
Il n'avait pas tort d'appréhender une fourberie, mais sa peur d'être maléficié le trompait sur la nature de l'astuce. Il craignait une tentative d'assujettissement de ma part, alors que je machinais juste une mystification.
Je n'avais qu'à tisser un sortilège mineur, un petit tour d'oniromancie, et sa main de métal répondrait en effet à toutes ses sollicitations. Il faudrait juste empêcher le sicaire de quitter la demeure.
car l'enchantement s'étiolerait comme toutes les autres fantasmagories sitôt qu'il en serait sorti. En tout cas, tant qu'il resterait dans cette enceinte, l'illusion serait parfaite et le remplirait probablement d'aise. Pour peu qu'il respectât sa part du marché, j'avais donc quasiment l'assurance d'en faire mon auxiliaire. Et pourtant, j'ai décidé de ne pas lui accorder aussitôt la faculté que je venais de lui proposer. Il n'aurait pas été sage de lui montrer que le tour était si facile. Je jugeais plus facile d'attiser un peu sa convoitise avant de la satisfaire. C'est beaucoup exigé que de réclamer votre dû avant d'avoir conclu un accord, ai-je protesté. Mais si nous devons reconstruire notre relation sur des bases saines, je consens à faire un geste de bonne volonté. Je vais préparer le rituel évocatoire qui vous donnera le contrôle de votre main de fer, provisoirement pour commencer, afin que vous puissiez juger de ma bonne foi. Toutefois, cela va me demander une conjuration complexe, qui nécessite que je revoie certains grimoires et que je rassemble des essences subtiles. Laissez-moi quelque temps pour me livrer à ces préparatifs et retrouvons-nous après-demain. Je serai en mesure d'enchanter cette prothèse et vous disposerez alors d'une main 10 fois plus solide que par le passé. Je me suis composé une mine un peu réticente. Ce n'est pas un mince service que je vais vous rendre. J'espère que vous avez conscience qu'il s'agit d'un sortilège majeur. Ça, c'est l'article que vous sort n'importe quel margoulin. J'attends de fermer et ouvrir le poing pour vous croire. Vous retrouverez même des gestes beaucoup plus fins, comme saisir des pièces de monnaie ou boutonner un vêtement. Ma zette, c'est la panacée, votre numéro. Sans offense, hein. Mais je crois que pour l'astiquage, j'en resterai quand même à la main gauche. Cette fois, je n'ai pas eu à jouer la comédie pour lui manifester le dégoût qu'il m'inspirait. Je crains de n'être pas très sensible à vos traits d'esprit, ai-je lâché du bout des lèvres. C'est à croire que vous ne réalisez pas le raffinement de l'art qu'on va déployer pour vous. Sur ce chapitre, je suis plus calé que vous ne pensez. Montrez-moi ce que vous pouvez faire et je vous tresserai des couronnes. Vous ne serez pas déçus. Mais plutôt que des louanges dont vous et moi savons ce qu'elles valent, je préférerais que vous fassiez à votre tour un petit geste de bonne volonté. Oh, rien d'extraordinaire. Il se trouve qu'en ce moment, à mes heures perdues, j'ai entrepris de compléter la librairie de cette demeure avec un nouvel ouvrage. Une petite chronique des événements de ces dernières années. Comme vous avez été mêlé à un certain nombre d'entre eux, j'avais caressé l'espoir que vous pourriez me gratifier de quelques souvenirs personnels. Un témoignage comme le vôtre doit être riche d'enseignements, et même si riche qu'il pourrait nous valoir une cascade d'emmerdements. Vous savez ce qu'on fait aux gens qui causent dans l'honorable société où je me suis illustré? Hélas, oui. Des mœurs tout à fait révoltantes. Mais n'avez-vous pas déjà rompu vos allégeances? Et croyez-vous vraiment que vos anciens collègues pourraient venir vous chercher jusqu'ici? Ne rigolez pas avec la guilde. C'est une confrérie aux talents mortellement diversifiés. Eh bien, disons que nous pourrions nous intéresser uniquement au volet officiel de vos activités. Après tout, vous étiez devenu un personnage public. Si c'est juste une chronique mondaine que vous attendez, avec commérage et secret d'alcôve, je peux peut-être vous servir un ou deux potins, je vais y réfléchir. Il y a un gratin qui vous botte spécialement?
La noblesse bromaloise. En ce moment, j'écris une relation de la guerre des deux duchesses.
Le malotru a fait la grimace. Il y a largement plus poilant comme sujet de conversation. Et puis, je ne vois pas trop ce que vous avez à raconter. Vous étiez hors jeu quand le duché est devenu une foire d'empoigne.
Justement. Vos confidences n'en seront que plus précieuses.
Vous savez, je n'ai fait qu'un petit tour pour régler quelques affaires. Et j'ai pris mes clics et mes claques quand ça a commencé à sentir le roussi. De toute façon, j'aimais pas leur cuisine.
Mais vous étiez bien membre de l'ambassade tchoudalienne.
Ouais, enfin, j'étais surtout là pour faire tapisserie.
Et vous avez donc assisté au tournoi de l'Indinas.
Bien forcé. Ça faisait partie de l'esbroufe pour nous en mettre plein les mirettes.
Oh, vous ne vous êtes pas contenté de regarder. Si je ne m'abuse,
C'est vous qui avez sauvé Cesarino Razicari quand il a failli être capturé.
C'était mon boulot, pardi. Si l'ambassadeur de la République avait dû payer une rançon parce que je n'avais pas bougé le petit doigt, j'aurais salement raqué.
J'ai hoché la tête en affichant un air intéressé. Vous avez certainement des choses passionnantes à rapporter sur ce tournoi. Voilà ce que je vous propose. Quand j'aurai rassemblé les formules et les prestiges requis par mon sortilège, j'enchanterai votre main de fer, et si vous êtes satisfait du résultat, nous conclurons notre accord. Je vous ouvrirai alors tout ce corps de bâtiment. En contrepartie, vous ferez des rondes pour surveiller l'entrée du sous-sol et m'informerez de toute évolution anormale. En outre, vous me délivrerez les souvenirs qu'il vous plaira d'évoquer sur vos activités en Bromel. »
Le vieux spadassin a pris le temps de la réflexion avec une mouche à fouine.
« C'est un drôle de marché, » a-t-il commenté.
« Nous sommes nous-mêmes dans une situation des plus insolites. »
« Au moins là-dessus, on est d'accord. » Il a haussé ses épaules osseuses. « Je vous le répète, je veux voir, » a-t-il conclu. « Si vous cherchez à m'embobiner, vous regretterez de m'avoir débusqué dans ma tanière. Mais si votre truc marche, alors ça se discute. Je pourrais peut-être vous rendre un ou deux services. »
L'engagement manquait de fermeté, mais c'était probablement le mieux que je pouvais obtenir au terme d'une première rencontre. J'ai fait mine de comprendre qu'il avait accepté les termes du marché sous son œil amusé. Il demeurait difficile de déterminer s'il se moquait de ma feinte naïveté ou de mon hypocrisie. Il me restait encore une étape fort délicate à négocier, sortir de son repère, de préférence sur mes deux jambes. « Je vous remercie de m'avoir accordé cette entrevue à l'impromptu. » Ai-je salué avec une civilité qui me demandait de prendre sur moi. « Mais je vous ai assez dérangé, et j'ai moi-même beaucoup d'ouvrages, si je dois préparer le sort dont nous sommes convenus. Je vais donc prendre congé et vous dire à après-demain. » Je l'ai même gratifié d'une courbette un peu raide, qui a accentué son affreux sourire.
« Je ne vous raccompagne pas. » m'a-t-il répondu négligemment. « Vous connaissez le chemin. »
Il n'avait pas bougé. Il était toujours assis juste à côté du seuil que je devais franchir. Plus encore que de la peur, je ressentais de la répugnance à devoir frôler un être aussi abject. Mais j'avais parfaitement conscience que montrer de l'hésitation lui donnerait prise sur moi. Alors, en rassemblant tout mon courage, j'ai passé la porte en coup de vent. Il n'a pas esquissé le moindre mouvement. Toutefois, sans même le regarder, j'ai senti qu'il jouissait de mon malaise. En traversant précipitamment le Capharnaüm qui encombrait son appartement, j'en ai éprouvé plus d'irritation que de soulagement. Sans doute cela éclaire-t-il mon imprudence. Alors que j'avais déjà un pied dehors, j'ai fait une brève halte.
« Au fait, Don Benvenuto, » ai-je lancé, « j'ai une question qui me trotte dans la tête depuis un bon moment. Alindinas, « c'est bien vous qui avez poignardé le chevalier de vos macelles ?»«
Occupez-vous de votre cul, sale casserole »
a-t-il grondé du fond de son antre.
« J'en ai garrotté pour moins que ça. »
Au raclement de ses semelles, j'ai compris qu'il s'était relevé. J'ai pris la fuite sans demander mon reste.